17h45 sur RB Info Weekend, Mickaël Jeuneski.
Un jeune homme de 26 ans a trouvé la mort hier soir à Ouégoua. Il a succombé à des tirs mortels après une altercation sur fond d'alcool à la tribu de Thierry. Sur le front des feux de brousse, un incendie sévit dans la région de Poum, à l'extrême nord de la Grande Terre. Les conditions compliquent la tâche des pompiers. Plus de 900 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Le club de rugby d'Audin-Béarn ainsi que l'équipe de foot de la commune voient leurs locaux de couture de nouveau ciblés par des exactions, des feux aux abords du stade Rocky Vaitanaki. Dès le 11 décembre, Air Calin proposera deux vols par semaine vers Paris avec une seule escale de 2 heures à Bangkok. Réservation possible à partir de demain. À Paris, une dernière cérémonie pour les héros des Jeux. 118 médaillés ont reçu des distinctions, dont Maxime Grousset ou le surfeur champion olympique Kaoli Vast, tahitien aux origines calédoniennes. Du football avec la 4e journée de Ligue 1. Les Nantais d'Antoine Comboiré sont au pied du podium à la 4e place du championnat de France avant de recevoir Reims. Et en Calédonie, de la voile avec l'équipage de Young Guns, promis à passer la ligne d'arrivée de la 3e régate offshore du Challenge 2024 du CNC. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Suite au décès par arme à feu d'un homme survenu hier soir à la tribu de Thierry à Ouégoua, le procureur de la République a communiqué ce soir les premiers éléments de l'enquête, Isabelle Pelletier.
Et selon les premiers éléments de cette enquête, un homme âgé de 34 ans habitant la tribu de Thierry aurait ouvert le feu à 3 reprises avec son fusil hier soir vers 21h en direction de 2 personnes de sa famille. Apparemment des cousins. La première victime âgée de 26 ans, également domiciliée à Thierry, a été atteinte de 2 coups au niveau de l'abdomen. Elle est décédée au cours de son transport au centre hospitalier du Nord. Selon les premiers témoignages recueillis, l'altercation serait survenue après que la victime ait effectué des dérapages avec son véhicule devant la propriété de ses cousins, tout en proférant des insultes. L'auteur présumé se trouvait en état d'ivresse manifeste. Toujours selon différents témoins, le drame a pris place dans un climat de forte animosité au sein de cette famille en conflit depuis plusieurs années. La seconde victime est âgée de 58 ans. Il s'agit du père de la première victime. Cet homme est allé chercher son fusil après avoir vu son fils allongé sur le sol. Il a été touché au niveau de l'épaule alors qu'il tirait un coup de feu en direction de l'auteur présumé. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur présumé s'est présenté spontanément ce matin à la brigade de Ouégoua. Il a été placé immédiatement en garde à vue. Il a reconnu les faits.
L'enquête est diligentée par la brigade de recherche de Koné, saisie des chefs d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire. Les opérations de police technique et scientifique ont été menées dès ce matin. Une autopsie du corps de la première victime a été ordonnée, ainsi qu'un examen médical de la seconde victime hospitalisée au CHN. Une dizaine de pompiers du SIVM Nord et de la Sécurité Civile sont mobilisés depuis ce matin 9h sur un feu à Arama sur la commune de Poum. L'incendie est en évolution libre depuis près de 3 semaines. Il a déjà brûlé entre 800 et 900 hectares de végétation. Les soldats du feu interviennent pour protéger des habitations qui sont désormais menacées. De nouvelles exactions contre des infrastructures sportives. Les locaux de l'Union Rugby Club de Dimbéa ont été incendiés la nuit dernière, Isabelle.
Les faits se sont produits aux alentours de 3h du matin. Les pompiers sont intervenus rapidement. Les bureaux, les locaux et les docks ont une nouvelle fois été touchés. Le site avait en effet déjà été brûlé une première fois au début des émeutes. Des travaux avaient depuis été effectués par la municipalité et les bénévoles avaient mis la main à la poche pour du rachat de matériel, déplore Frédéric Hervouette, le président de l'URC qui dénonce des attaques répétées contre le vivre ensemble incarné par les valeurs sportives.
Il y a eu des réparations qui ont été faites par la mairie pour pouvoir recevoir du public, aussi bien le foot que le rugby, puisque le club de foot avait relancé des tournois. Donc on partageait les locaux et donc on mettait à disposition du foot le terrain de rugby et on s'entend très bien avec le foot et vice versa quand on a des événements de rugby pour les jeunes, notamment les écoles de rugby. En fait, on partage nos terrains. Et ce matin, patatras, certains se sont amusés à détruire encore le vivre ensemble, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça. On essaie de remonter bénévolement sur nos fonds propres, parce qu'on avait déjà été brûlé une fois. On essaie de racheter le matériel nous-mêmes en attendant les aides, les subventions. Et puis là, de nouveau, ça rebrûle, quoi. Pourquoi s'attaquer à des installations sportives, qui vient le foot que le rugby, quoi. On fera le bilan de ce qu'on a perdu, quoi. Voilà, c'est surtout le bénévolat, quoi, qui est attaqué. On est un peu le pont qui reste entre toutes ces communautés. Et là, ça veut vraiment détruire le pont.
Et notez que cette nuit encore sur Nouméa, cette fois deux véhicules ont brûlé, l'un sur la zone de Nimbo, l'autre à la vallée du Tir. Trois feux de détritus ont également été allumés dans l'enceinte de la déchetterie de Magenta. Les pompiers ont rapidement pu circonscrire le sinistre.
Depuis hier, le GIE Carouillabus a remis en circulation une partie de ses bus sur le réseau Taneo. Cette reprise a été condamnée par le SMTU, le syndicat mixte des transports urbains, qui a fait part de sa réaction alors que le GIE Carouilla a décidé de remettre en circulation les bus dans Nouméa, d'où ce retour des autocars en service pour le plus grand étonnement des usagers. Pour le SMTU, cette reprise s'est faite sans concertation et alors que les conditions ne sont pas réunies. Pour le GIE, la remise en circulation des bus s'est passée sans contrainte et s'est poursuivie aujourd'hui. Les lignes seront encore assurées demain, lundi. Écoutez Joseph Saliga, le président du GIE Carouillabus.
On voit très bien qu'il y avait une grosse attente pour la reprise et les gens sont très satisfaits. Franchement, ça s'est super bien passé. On reprend ce qui est prévu contractuellement avec le SMTU. Donc, toutes les lignes concernant le GIE Carouilla seront reprises normalement avec des heures prévues dans le planning habituel. Je pense que la position du SMTU, je pense qu'aujourd'hui, on a bien vu une présidente quand même pas contente par rapport à ce qui s'est passé. En attendant, c'était prévisible. La suspension se terminait vendredi. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, le réseau rail fonctionne. Il y aura des discussions pour le après. En attendant, donc, nous, on ne fait que exécuter ce qui est prévu dans le contrat. On va commencer à entamer les discussions, oui, effectivement.
Le syndicat mixte des transports urbains, qui est le responsable de la gestion du service public des transports en commun dans l'agglomération, se donne le droit d'analyser dans quelle mesure cette reprise du service des bus Carouilla rentre bien dans le cadre du contrat passé avec Carouillabus, étant donné la situation exceptionnelle que connaît la Calédonie et notamment l'agglomération depuis le 13 mai. Les discussions doivent se poursuivre pour déterminer dans quelle mesure une véritable reprise de l'activité du SMTU et des transports en commun pour toute l'agglomération doit être opérée lorsque les conditions le permettront, et tandis que les dégâts sur le réseau d'autocars et néobus ont été estimés à plus d'un milliard de francs. Une information pratique à propos cette fois des navettes maritimes desservant le Mont d'Orsud, Isabelle Pelletier.
En raison de conditions météo défavorables à la navigation, lundi et mardi prochain, les navires feront des rotations demain en matinée, mais seulement jusqu'à 11h. Aucune rotation ne prendra place demain après-midi. Le dispositif sera annulé pour la journée de mardi. Il reprendra mercredi si toutes les conditions météorologiques sont réunies. Attention, pour le week-end prolongé du 20 au 24 septembre, le dispositif sera limité en raison du couvre-feu à partir de 18h. Les trajets en fin de journée seront réservés uniquement aux travailleurs munis d'une attestation.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koné, c'est le 98.
Au chapitre politique, le Palika réunissait hier une assemblée générale extraordinaire à la tribu de Noélie à Koné. Lors des discours d'ouverture, Charles Wachétine, l'un des porte-parole du Parti de Libération Kanak, est notamment revenu sur le 43e congrès contesté du FLNKS avec la nomination de Christian Théin à la présidence, un congrès auquel n'ont pas pris part le Palika et l'UPM. Charles Wachétine parle d'un coup de force et invite le Palika à réfléchir à la stratégie à suivre vis-à-vis du Front indépendant. La ligne Nouméa-Paris, opérée par Air Calin, n'est plus un projet mais une réalité. Dès le 11 décembre prochain, la compagnie internationale va proposer deux vols par semaine avec une seule escale à Bangkok, une escale technique de 2 heures. C'est la route la plus courte possible et le temps de vol sera de 23h40 avec un prix d'appel en basse saison qui sera inférieur à 200 000 francs aller-retour, Isabelle.
Cette ouverture de ligne prévue à l'origine en 2026 a été accélérée car elle figure désormais dans le plan de sortie de crise de la compagnie, très lourdement frappée par les conséquences des émeutes. 280 salariés en chômage partiel, un nombre de passagers divisé par 2 en 2024. Le lancement de la ligne Nouméa-Paris était donc vital après les premières mesures de sauvegarde. C'est ce que souligne Georges Stéléphane, le PDG d'Air Calin.
Les premières mesures de ce plan étaient centrées sur la maîtrise de ses coûts, avec notamment la mise en place du chômage partiel. Nous sommes aujourd'hui sur le deuxième volet avec l'annonce de cette ouverture de la ligne Nouméa-Paris via Bangkok, qui va être opérée dès le 11 décembre et qui sera commercialisée à compter du lundi 16 septembre. Ça a été un défi technique, opérationnel et commercial que les salariés de la compagnie ont su relever et permettre aux Calédoniens de pouvoir voyager de bout en bout sans rupture de charge et permettre aussi aux clients et aux Calédoniens de pouvoir découvrir la Thaïlande, Bangkok et ses pays environnants.
Air Calin qui va donc commercialiser, on l'a entendu, cette nouvelle ligne dès demain, lundi 16 septembre. Une ouverture de ligne qui est une bonne nouvelle économique pour la compagnie car elle va permettre de récupérer la partie de la recette entre l'Asie et l'Europe. Des revenus qui doivent permettre à la compagnie d'envisager un retour à la croissance autour du second semestre 2025.
RRB 17h55.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Notez d'abord ces rendez-vous sur notre antenne. C'est la présidente du MEDEF-NC, Mimsy Delay, qui sera notre invitée demain matin à 7h30, l'occasion de faire un point sur son séjour en métropole, au cours duquel elle a notamment participé à l'université d'été du MEDEF national, rebaptisée Rencontre des entrepreneurs de France. Autre rendez-vous d'antenne, à la fin de ce journal, vous retrouverez la rediffusion du magazine Transparence, dont l'invité était vendredi midi, le haut-commissaire Louis Lefranc. Il a notamment détaillé les nouvelles mesures d'interdiction à venir pour la vente et le transport d'alcool, Isabelle Pelletier.
Mesures qui rentrent en compte à partir de demain jusqu'au 24 septembre inclus, même restriction pour la vente et le transport d'armes. Par ailleurs, le couvre-feu sera rallongé à partir de samedi pour 4 jours. Il entrera en vigueur de 18h à 6h du matin. Dans l'actualité institutionnelle, le congrès de la Nouvelle-Calédonie procédera demain lundi à l'installation de la commission des forces vives dont le principe a été adopté par le plan quinquennal réclamé à l'État et voté par les élus le 28 août dernier. Le congrès qui se réunira le lendemain, mardi, en séance publique pour examiner un projet de délibération relative au taux de la TGC mais aussi des mesures sociales exceptionnelles à la suite des émeutes.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Dans le reste de l'actualité, une nouvelle brocante de la Spank a fait des heureux ce matin. Des vêtements, de la vaisselle, des livres, des produits animaliers. Tout ça à des prix défiant toute concurrence pour venir en aide aux animaux du refuge de Coutiot, Sarah Mégerie.
La Spank organise désormais ses brocantes une fois par mois afin de réunir les fonds nécessaires pour venir en aide aux animaux qui sont encore plus en difficulté depuis les émeutes. La brocante propose des articles à très petit prix, ce qui ravit les chineurs amoureux des animaux.
Je suis venue parce que autant profiter d'un vide-grenier qui peut rapporter pour les animaux et les aider après. Et puis on peut trouver pas mal de choses pas trop chères qui peut nous aider dans nos maisons.
Et ben on est là pour soutenir la cause de la Spank. Voilà, une façon de leur apporter notre soutien en achetant des choses recyclant, puisque moi je suis dans le domaine de l'environnement et du recyclage, donc c'est aussi en cohérence avec notre façon de penser et de consommer.
J'ai trouvé un petit gamelle pour la chatte qui a la maison. Puis mon fils là qui aime bien là, et il veut tout parce qu'il aime bien les animaux. Et ça m'intéresse aussi d'avoir un petit chien là, chez mon neveu. Là.
C'est la générosité des Calédoniens qui permet à ces brocantes d'exister. Les dons et fonds recueillis permettent aux animaux de vivre dans des conditions d'hygiène irréprochables, notamment pour éviter les épidémies. Chaque pièce collectée compte pour la Spank, explique Michel Gauthier, le président de l'association.
La dernière brocante en mois d'août nous a rapporté quand même 400 000 francs. C'est important pour l'association de recueillir ces fonds. Il y a aussi une part de mécénat. Comme aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont venues nous faire des dons en finance. Jusqu'à maintenant, on a pu préserver la structure, mais on a quand même des frais de fonctionnement importants, les employés à payer, la propreté, à savoir que chaque année, on paye 600 000 francs d'eau, 500 000 francs d'électricité. Quand on soigne un animal pour les filaires, c'est 40 000 francs pour un chien de 30 à 40 kilos. Donc tout ça, c'est des frais importants, mais parce qu'il faut qu'on propose aux adoptants des animaux qui sont stérilisés, tatoués, vaccinés et qui sont prêts à repartir pour une famille d'accueil.
Pour toute information concernant les adoptions, vous pouvez contacter la Spank au 41 22 66 41 22 66.
Il est 17h passé de 59 minutes, une page de publicité avant de voir l'actualité nationale et dans le monde.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
À l'actualité dans la région Pacifique, à Canberra, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine aux États-Unis, et ce afin de participer au sommet annuel du dialogue quadrilatéral pour la sécurité qui regroupe les États-Unis, l'Australie, mais aussi l'Inde et le Japon. Un sommet dont l'objectif non avoué est de contrer l'influence de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Le point avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a indiqué que ce sommet aura lieu le 21 septembre à Wilmington, cette ville du Delaware où est habituellement domicilié le président américain Joe Biden. Outre ces deux hommes politiques, assisteront également à la réunion le premier ministre japonais Fumio Kishida et son homologue indien Narendra Modi. Les discussions devraient surtout se concentrer sur le renforcement des liens diplomatiques, économiques et sécuritaires qui unissent déjà les quatre pays. L'Australie est profondément investie dans la prospérité et la stabilité future de la région Indo-Pacifique, a déclaré Anthony Albanese. L'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon, a-t-il poursuivi, partage la vision d'une région où tous les pays peuvent coopérer, commercer et prospérer. Nous travaillerons ensemble pour façonner le type d'Indo-Pacifique dans lequel nous voulons vivre, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À l'actualité nationale, au chapitre politique, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, s'est exprimé à la fête de l'humanité. Dans son discours, il a notamment attaqué Emmanuel Macron, je cite, « Un homme seul a opposé son veto au suffrage universel. Le roi Louis XVI lui-même n'avait pas eu le droit de le faire. » Toujours à la fête de l'humanité, notez que François Ruffin, l'ancien député LFI, a quant à lui été sifflé par le public. Et puis pour le Rassemblement national, c'est une rentrée parlementaire pour les 126 députés RN. La chef de file du parti Marine Le Pen a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale l'année prochaine. De son côté, le président du RN, Jordan Bardella, a souhaité que ses députés incarnent une opposition constructive et influente. Notez qu'aujourd'hui, cela fait 9 jours que Michel Barnier a été nommé Premier ministre et depuis, toujours pas de gouvernement. Il a battu ainsi le record de la plus longue constitution d'un exécutif sous la Ve République. L'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos cette semaine sera Éric Zemmour, le président du parti Reconquête. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne des RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. En métropole, toujours à Paris, 70 000 personnes sont venues saluer sur les Champs-Élysées les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Une parade pour conclure cet été sportif dans la capitale. Le reportage d'Antoine Bienvaux d'Europe 1.
Un accueil à la hauteur de leur performance. Sur les Champs-Élysées, entourés par plus de 70 000 spectateurs, les Bleus paradent et profitent de ce dernier instant de liesse. Accoudée derrière les barrières, Anne-Sophie est aux premières loges pour célébrer ses héros.
On était très heureux de voir les athlètes olympiques, mais surtout paralympiques, parce qu'on a vu beaucoup de paras, et de les voir, voilà, c'était assez, ça nous a remis beaucoup d'émotions, et ça clôture quelque chose d'assez merveilleux.
Sous les applaudissements, les athlètes rejoignent ensuite la place de l'Étoile, où les médaillés de l'été sont décorés de la Légion d'honneur.
Monsieur Léon Marchand, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Un moment particulièrement émouvant pour Ben, qui tenait à remercier une dernière fois les sportifs français.
Angèle, Anthony, Jean-Jean, Joanne Benjamin Gaba, de les voir tous là avec leur médaille, la Légion d'honneur, c'est magnifique.
Dans le ciel de Paris, la patrouille de France recouvre la capitale de ses couleurs bleu, blanc, rouge avant de laisser la place à Axel Saint-Cyrel, qui, comme lors de la cérémonie d'ouverture, interprète une Marseillaise, la dernière de ces Jeux Olympiques.
Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et parmi les participants présents, décorés de l'Ordre National du Mérite ou de la Légion d'honneur, Maxime Groussel, le Calédonien qui a gagné une médaille de bronze avec le relais français en natation, mais aussi Kaoli Vast, le Polynésien aux origines calédoniennes qui est devenu, on le rappelle, à Tahiti, champion olympique de surf. Il était donc à Paris pour cette cérémonie.
C'est un moment unique, c'est aussi un deuxième club France. J'ai loupé la cérémonie d'ouverture, j'ai fait la cérémonie de clôture. J'ai fait le Club France et voilà, pouvoir être là aujourd'hui, c'est un honneur et une fierté d'être là. Je suis toujours sur mon petit nuage, le fait d'avoir représenté, même juste le fait de toujours avoir cette pensée, d'avoir réalisé un rêve et un objectif hyper important. Donc toujours sur ce nuage-là, mais difficile quand même petit à petit de réaliser vraiment l'importance et la signification de cette victoire. Et je pense que ça, le temps fera les choses. Et pour l'instant, j'essaye de redescendre de mon petit nuage. Le fait d'avoir rendu tellement de personnes heureuses, d'avoir rendu les personnes avoir un autre regard aussi sur le surf, pas qu'un loisir, mais aussi devenu un sport. Je suis tellement heureux et fier d'avoir pu remporter cette médaille.
Kaoli Vast, le surfeur tahitien aux origines calédoniennes, champion olympique de surf lors de ces JO 2024. Et puis Teddy Rayner, le judoka guadeloupéen, entraîné par le calédonien Laurent Kaléja, a reçu une distinction spéciale. Il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. 18h passées de 6 minutes, une dernière page de publicité avant de voir l'actualité sportive côté terrain. Antoine Comboiré et les Nantais veulent garder leur 4e place au championnat de France. On voit ça dans un instant.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
À la une du sport, du football, suite et fin de la 4e journée de Ligue 1 ce soir et demain matin. Et les Nantais sont en forme actuellement à la 4e place du classement. Antoine Comboiré espère retrouver, après la trêve internationale, des joueurs prêts à conserver cette dynamique de la gagne. Les Nantais recevront Reims. On écoute le coach calédonien.
On part toujours un peu dans l'inconnu quand il y a une trêve. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le message, c'est, en ce qui me concerne, il faut continuer dans cette voie. Pour faire un bon championnat, il faut être très fort à domicile, il faut engranger des points, il faut gagner des matchs, il faut faire peur à l'adversaire, voilà, il faut être conquérant. Et c'est l'objectif qu'on a, même si on sait que cette équipe de Reims, c'est l'équipe la plus forte sur les 4 équipes qu'on a eu à jouer, quoi, hein, sur les 3 derniers matchs, et puis celui-ci, là, c'est une équipe redoutable.
Nantes-Reims à suivre à partir de 2h du matin. Au même moment, Toulouse sera opposée au Havre et Strasbourg accueillera Angers. Un peu plus tôt, Rennes recevra Montpellier à partir de minuit. La dernière affiche du week-end mettra aux prises ce lundi les Lensois aux Lyonnais à partir de 5h45. Il y aura un choc également demain en top 14, le championnat de France de rugby entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Rodrigue Nethi, le Calédonien, sera titulaire sous les couleurs toulousaines. Coup d'envoi de la rencontre à 6h05 demain pour nous. Et puis un mot de boxe avec la victoire de Saul Canelo Alvarez dans un combat sans suspense face au portoricain Edgar Berlanga. À 34 ans, le Mexicain Canelo Alvarez a conservé ses ceintures mondiales WBC, WBA et WBO des poids super moyens à l'unanimité des juges sur le ring de Las Vegas. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
À la F1 avec une nouvelle manche du championnat du monde. Les pilotes sont à Bakou ce week-end. 2 semaines après sa victoire à Monza, Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari, s'élancera de la pole position. Christopher Filhoc pour Europe 1.
Une performance que le pilote Ferrari réalise pour la 4e année consécutive à Bakou. 26e pole position de sa carrière, la 3e cette saison. Le Monégasque accompagné par Oscar Piastri qui a sauvé les meubles pour McLaren puisque Lando Norris, 2e du championnat du monde, principal rival de Max Verstappen, s'est manqué. Il partira 17e et risque même de marquer aucun point à l'issue du week-end. Un vrai coup dur dans sa lutte pour le titre mondial. Le pilote McLaren s'en remet désormais à la stratégie pour espérer remonter sans se montrer vraiment optimiste.
Honnêtement, les dépassements sont compliqués ici, donc je n'attends pas grand-chose de la 17e position. Nous allons mettre en place un bon plan et nous faisons de notre mieux, bien sûr. Mais je ne sais pas ce qui va se passer, donc nous allons juste attendre et voir.
Carlos Sainz et Sergio Perez partiront 3 et 4, George Russell 5e. Max Verstappen, encore en retrait, n'a pu signer que le 6e temps, pas si mal au vu des déboires de Lando Norris. Et puis le top 10 est complété par Lewis Hamilton, Fernando Alonso et les deux Williams de Franco, Colapinto et Alexander Albon.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan sera à suivre à partir de 22h ce soir.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien, une qualification en demi-finale pour nos représentantes qui disputent les Océaniens de football féminin des moins de 16 ans. Les Calédoniennes ont terminé deuxième de leur groupe grâce à une victoire contre les Tahitiennes 3 buts à 1 cet après-midi aux îles Fidji pour devancer les Salomonaises au classement de leur poule, ces dernières ayant subi la loi des Néo-Zélandaises, une défaite 1-0. C'est Kine Amaen qui a été élue joueuse du match avec encore 2 buts aujourd'hui.
Je me sens bien, je suis contente. On peut jouer au sol, plus rapide, et être efficace devant. Et rendez-vous en demi-finale.
Les Calédoniennes qui affronteront les îles Samoa en demi-finale avec dans le viseur, à l'image des sélections calédoniennes masculines des moins de 17 ans et moins de 20 ans, des billets pour la Coupe du Monde de leur catégorie d'âge l'année prochaine au Maroc. L'autre demi-finale se jouera entre les Tongiennes et les Néo-Zélandaises. De la voile sur le territoire avec la régate offshore du CNC. L'équipage de Young Guns a passé en premier la ligne d'arrivée de cette troisième régate du Challenge 2024. Les 7 membres d'équipage du navire, skippé par Patrick Baldi, ont été les plus rapides pour un aller-retour de 145 000 nautiques jusque dans le Grand Sud en moins de 24 heures. On écoute Patrick Baldi.
Ça a été compliqué pour nous. On a beaucoup souffert sur le long bord de près, descendre du canal Woodin jusqu'au sud de la Corne. La nuit a été difficile parce qu'on était un peu sous-toilé. Il y avait une mer très hachée, très difficile à négocier. Et on a perdu pas mal de terrain à ce moment-là et on a vu les autres partir. On était un petit peu inquiet et puis on a réussi à bien se refaire sur le portant du retour là, et on a fini dans des conditions incroyables avec Nouméa sans aucun vent, les fumées qui montaient droite et nous on arrivait juste devant un grain avec 20-25 nœuds qui nous poussaient sur Nouméa. C'était magnifique sur une eau miroir, c'était très étonnant. C'est une vraie épreuve parce que mine de rien ces petites offshore de 24 heures c'est pas facile, c'est beaucoup de manœuvres, beaucoup de conditions différentes. Et puis c'est très fatigant parce qu'en fait, sur 24 heures, on se repose quasiment pas.
Et pour les participants, ça reste une belle expérience dans cette régate de préparation à la New Caledonia Groupama Race qui a été reportée à l'année prochaine.
On a réussi à bien remonter sur les derniers bords et c'est une bonne fin. Moi, ça me fait plaisir parce que c'était la première que je faisais avec ce bateau-là et cet équipage. Donc ouais, moi, c'est une nouveauté. Donc c'est sûr que moi, ça me fait plaisir de partager ça avec eux et d'apprendre.
Vous avez quel âge ?
J'ai 17 ans.
La Groupama Race, c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire plus tard ?
Ouais, pourquoi pas, ouais.
On a été un peu mouillé sur l'arrivée, mais non, globalement, c'était cool. On s'est bien amusé et c'est bien passé. Enfin, il faut être un peu plus endurant que les régates classiques, mais c'est chouette, ouais.
C'est quelque chose d'assez exceptionnel de naviguer sur ce bateau. Un très, très beau bateau, tout carbone. C'est de la coordination à faire, c'est comprendre comment marche la voile, voir là un nuage arriver, puis rester au large, par exemple, pour l'arrivée à Nouméa. Alors qu'il n'y avait pas du tout d'air à terre.
On a réussi quand même à maintenir pas mal de courses, sauf la Groupama évidemment, mais ouais, non, c'est super important. En tout cas, nous, c'est vital et c'est une des seules choses qu'on peut encore faire sur Nouméa, donc c'est super important pour nous. Ouais.
L'équipage de Young Guns, toujours à la recherche d'un sponsor pour les régates, qui a donc franchi en premier la ligne d'arrivée devant Pulpito MLS FCD et Speed Marine MSC Hermès Protection. Le classement officiel et définitif sera dévoilé mercredi. 12 navires étaient engagés sur cette régate offshore du cercle nautique calédonien. 18h passées de 14 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Bonsoir Maxime, nous avons entendu des équipages qui ont profité des conditions météo pour une régate de voile. Dites-nous un petit peu quelles sont les couleurs du ciel, les prévisions météo pour cette nuit et puis pour demain.
Eh bien, pas d'inquiétude, hein, pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, des averses toucheront la côte est en remontant du sud vers le nord. Quelques gouttes seront possibles à Ouvain en fin de nuit. Ailleurs, nuages éclaircis se partageront le ciel et des ondées seront à prévoir quand même sur le nord-ouest et la pointe nord, surtout en fin de nuit. Le vent mollira entre 10 et 15 nœuds et plus tard autour des 10 nœuds. Et les températures seront en baisse ce soir, comprises dans l'intérieur sur l'ouest, sur Lifou et Marais, entre 12 et 16 degrés. Sur les autres régions, entre 17 et 21 degrés. Demain matin, sur la pointe sud et l'île des Pins, le soleil dominera. Ailleurs, il sera contrarié par les passages nuageux, voire quelques averses sur l'ouest et la pointe nord et Ouvéa. Le vent de secteur sud se renforcera entre 15 et 20 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord. Ailleurs, il soufflera proche des 10 nœuds, voire 10 à 15 nœuds au Loyauté. Et sur l'est, eh bien, il restera souvent déventé, bien à l'abri de la chaîne, mais avec localement quelques accélérations quand même en sortie de vallée.
Merci beaucoup Maxime, 18h15, c'est la fin de ce journal.